comme les petits. Dommage que je n'ai pas une marionnette, hein, ils auraient tous été contents. Alors je vous raconte une histoire vraie qui m'est arrivée lorsque j'étais jeune. Donc je ne sais pas, je ne me rappelle plus l'âge que j'avais, 13-14 ans. Je faisais du vélo avec mon frère et en passant dans un village, je vois un chien qui aboyait, qui tirait sur sa chaîne et comme ça, et j'ai été bloqué. J'avais déjà eu des problèmes avec les chiens. Et là, j'ai été bloqué. Mon frère a dit « Oh, passe, n'aie pas peur, il est attaché. » Mais vous savez, quand là, vous êtes pris par la peur, je n'avais plus appuyé sur la pédale. Et puis, à un moment donné, bon, je dis « Il faut que j'y aille. Oh, je fonce. » Et paf, le chien, il casse sa chaîne au niveau du collier et il me cavale après. Ah, dis donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé derrière un monsieur. J'ai sauté du vélo, j'ai fait une roulade. Et j'étais derrière un monsieur qui était là au bord du « Non, n'aie pas peur, gamin, n'aie pas peur. » Il me disait « Mais le chien, lui, il est mort. » Et donc les propriétaires sont sortis en courant, ils ont repris leur chien, ils ont été l'enfermer, ils m'ont amené chez eux, voilà, ils m'ont soigné les deux, trois petits bobos que j'avais, là quand je suis tombé, ils m'ont donné des bonbons, ouais, ils m'ont dit « t'as eu peur ?»« Bon, même pas peur que j'ai ça !» Et en fait, si, j'ai vraiment eu peur, et c'est le genre de peur que j'ai gardé. Alors maintenant, je sais me maîtriser quand je vois des chiens, et 9 fois sur 10, me trompe pas pour vous dire si celui-là il est méchant ou pas. Hein, j'ai appris une chose, c'est que le chien, il n'est pas dangereux quand il ouvre la gueule, il est dangereux, c'est quand il la referme. Il faut faire donc attention. Alors, je ne sais pas de quoi vraiment vous avez peur, mais ce que je suis certain, c'est qu'il y a toujours des peurs qui sont là dans votre vie et qui se réveillent à certains moments. Certains diront « Ah, mais moi, j'ai pas peur de la mort », mais seulement quand ils se retrouvent sur un lit d'hôpital avec un cancer et qu'ils savent qu'ils ont 8 jours encore à vivre, j'aime autant vous dire que là, quand vous discutez avec les gens, le discours change, les gens commencent à s'ouvrir sur leurs craintes et si je meurs, où je vais, vous voyez. Alors, peut-être que vous n'avez pas peur des chiens, vous avez peut-être peur des chiens, mais peut-être que vous avez peur, je ne sais pas moi, des araignées, des serpents, vous avez peur d'être agressé, de perdre votre travail, peur de votre voisin, de la pollution, de la perte d'un être cher, peur du rejet, de l'échec, peur de louper votre vie, peur que le ciel vous tombe sur la tête, peur des examens, peur de grossir, peur de Dieu, peur des transports en commun, peur de l'eau, peur de la foule, peur du noir, peur de la guerre, peur d'être violé, peur de manquer de nourriture, peur du ridicule, peur pour votre réputation, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas avoir assez de j'aime sur Facebook quand vous mettez une photo, peur de ne pas trouver un sens à votre vie. En fait, j'aurais pu vous parler comme ça pendant un quart d'heure parce que des peurs, il y en a des centaines. Vous irez sur Google en rentrant chez vous, vous taperez peur et vous verrez, vous avez, je crois que c'est 3 millions de résultats. Donc, c'est un domaine très vaste. Ce qui veut dire que ce soir, ben, je vais vous parler d'une petite partie de ce qu'est la peur. Hein. Et je ne vais pas vous parler de certaines peurs en particulier, même si j'en ferai allusion, mais je poserai plutôt 3 questions sur la peur. Donc, vraiment, un sujet vaste, impossible d'en faire le tour en une soirée. Et si vous venez à faire des recherches là-dessus, vous verrez, il y a beaucoup de livres d'écrits, beaucoup de sites là-dessus, de revues, vous trouvez vraiment de la matière. La peur touche absolument tous les êtres humains et même les animaux. Hein, vous allez dans le bois, vous promenez, vous voyez 2 chevreuils, hein, vous ne bougez pas parce que vous savez qu'au moins rejet, hop, ils vont avoir peur, ils vont s'en aller. J'aimerais dire aussi que vouloir vivre sans peur, c'est une utopie. C'est impossible. On ne peut pas vivre sans peur. On peut y être libéré de grandes peurs, comme par exemple la mort, mais on ne peut pas vivre une vie sans peur. Mais attention, il n'y a pas que du mauvais dans la peur. Il y a aussi du bon. Par exemple, vous vous promenez avec un petit enfant qui a 2 ans et demi au bord de la route, il y a de fortes chances que vous ne le laisserez déjà pas du côté de la route, mais vous allez le mettre plutôt du côté trottoir. Hein? Et si vous dites « Ah, oh, j'ai oublié d'acheter du pain pour midi », vous n'allez pas dire au gamin « Traverse la route et va à la boulangerie acheter une baguette » parce que vous avez tout simplement peur qu'il se fasse écraser. Et dans certaines situations, la peur peut être bonne, voire utile. Elle peut nous prévenir d'un danger, nous donne de bien réagir, d'être prudent. Donc la peur n'a pas que du mauvais. Maintenant, si la peur dirige ma vie, commande mes décisions, conditionne mon comportement, là, il y a vraiment un problème. Alors ce soir, je ne vais pas reprendre ce que j'ai écrit dans le livre. Donc si vous l'avez lu, je ne vais pas dire la même chose, même si je ferai allusion au livre. Et si vous ne l'avez pas lu, vous pourrez l'acheter à la fin de la conférence. La première question que j'aimerais poser, c'est pourquoi avons-nous peur? Quand nous parlons de sujets comme la mort, la maladie, la pauvreté, l'étranger, bien souvent ça va susciter en nous, à des degrés différents, la peur. Et je pense que pourquoi avons-nous peur, on peut au moins discerner deux raisons. Et la première, c'est l'ignorance. L'inconnu fait peur. Quand on ne maîtrise pas une situation, la crainte s'installe. Le stress peut monter en nous, voire même la panique. Et vous savez, ça peut être simplement de devoir prendre l'avion pour la première fois, vous ne savez pas comment ça se passe, vous commencez à vous inquiéter quelques jours avant pour commander le billet et tout ça, peur de se tromper, vous arrivez à l'aéroport, là vous rendez compte que l'aéroport, c'est pas votre village de 800 habitants, mais que tout d'un coup vous êtes dans une ville, vous ne savez pas comment faire, et là commence à avoir la peur, la panique, et est-ce que je vais arriver à enregistrer les bagages, et est-ce que je ne vais pas louper mon avion. Vous voyez, il y a des situations comme ça qui nous donnent vraiment d'avoir peur. Mais ça, c'est une peur qui ne va pas durer. Vous allez finalement vous trouver quelqu'un et voilà, ça va être passager. Mais si l'ignorance concerne un sujet, mettons, comme la mort, et que cette question vous travaille, alors là, ça devient différent. Maintenant, il faut dire une chose. Quand on parle de la mort, c'est vraiment dans notre société un sujet tabou. On ne parle pas d'un sujet de la mort. En général, quand vous êtes invité chez des amis, tout ça, là, c'est les barbecues qui vont recommencer, vous faites griller les saucisses, il y a le rosé qui est au frais, tout ça, vous commencez à passer un bon moment, à discuter. Et si vous dites à vos amis, écoutez, je vous propose pendant le repas qu'on parle ensemble de la mort, à mon avis, ils vous inviteront qu'une fois. Ouais, ça vous fait rire, mais n'empêche, vous voyez que ce n'est pas un sujet qu'on va aborder comme ça. Mais quand on a des réponses, ça ne dérange pas d'en parler. Vous connaissez, vous, une manière de cacher sa peur de mourir? Eh bien, la meilleure et la plus utilisée dans notre société, c'est celle qui consiste à ne pas en parler, à jouer à l'autruche. Ou de se dire des choses comme « de toute façon, après la mort, il n'y a plus rien. Quand on est mort, on est foutu. » C'est une manière de répondre. Mais ça n'enlève pas la peur. Savez-vous qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas être dans le silence? Un long silence prolongé amène parfois des peurs. Et un psychologue là disait que ça amène la peur de se retrouver seul avec soi-même et de voir surgir tout d'un coup des questions existentielles qui peuvent déranger. Mais rassurez-vous, on vit dans un monde où le bruit est là en permanence. Combien de gens, quand ils rentrent du travail chez eux, ils allument la télé juste pour qu'il y ait du bruit, pour ne pas être dans le silence et de se retrouver seul avec soi-même. Et par rapport à ça, regardez, vous prenez le train, le nombre de personnes qui ont des écouteurs, tout ça. Maintenant, non seulement les gens s'enferment dans leur bulle, ils s'enferment dans le bruit, ils coupent le dialogue avec les autres, et tant que je suis concentré sur la musique, je ne pense pas à autre chose. Mais vous savez, les personnes qui ont une pleine assurance de savoir où ils iront après la mort, ça ne les dérange vraiment pas de parler de la mort. J'ai rencontré et suivi des personnes qui allaient mourir et qui me disaient qu'ils voulaient, voilà comment je veux, soyez mon enterrement. Voilà, qui me disaient, voilà, j'aurais tel son, je voudrais que tu prennes tel texte et tout ça. Et ils ont parlé dans la paix parce qu'ils avaient des réponses pour le après la mort. Et je peux vous dire que lorsque vous rencontrez des personnes qui ont vraiment cette assurance de savoir où ils vont et que c'est la famille aussi, c'est entre guillemets agréable de faire l'enterrement. Mais quand les personnes n'ont aucune réponse et qui vous disent « on aimerait bien quand même qu'il y ait un petit culte d'enterrement et tout », je vais vous dire que c'est quelque chose de lourd. Hein, on sent, les gens sont désespérés, ils ont vraiment une tristesse profonde et on trouve des fois même pas de mots de dire « mais comment je peux essayer de donner quelques paroles d'espérance à ces personnes ?» Alors que d'autres fois, on m'a invité à faire des enterrements et on m'a dit « ben voilà, il va y avoir beaucoup de monde et c'est vraiment l'occasion de parler de l'Évangile et de l'espérance que la personne qui était morte avait dans son cœur. » Je me demande des fois combien de personnes, sachant qu'elles vivaient leur dernier moment, l'ont vécu dans la peur. Alors la deuxième raison, pourquoi avons-nous peur? Eh bien, c'est notre imaginaire. Et entre l'ignorance et l'imaginaire, ça fonctionne vraiment ensemble. Pour ceux qui prennent des notes, parce que je vois que Léa prend des notes, voilà une phrase importante. Sachez que nous avons souvent plus peur de ce que nous imaginons que des faits réels. Combien de fois vous êtes fait tout un film sur une situation et après, mais pourquoi j'ai eu peur comme ça? Ouais. Moi, je vous donne un exemple, vécu, enfin, pas moi qui l'ai vécu, mais dans un couple qui avait atteint la cinquantaine, encore tout jeune, quoi, le mari voulait faire une surprise à sa femme pour ses 50 ans. Et le gars, il travaillait, comme on dit, il travaillait au black le soir et faisait des chantiers pour ramasser un peu d'argent, tout ça, pour faire une belle fête pour sa femme. Mais il n'avait pas dit à sa femme. Alors sa femme le voyait partir tous les soirs. Mais qu'est-ce que tu sors tous les soirs? Non, t'inquiète pas, chérie, prépare quelque chose, tout ça. Et elle a commencé à se faire des films. Mais voilà, il sort tous les soirs, ça y est, il a une maîtresse. Et il est en train de me tromper, tout ça. Et la personne nous a raconté ça. Elle dit qu'elle était prête à divorcer parce qu'elle a dit, il me trompe et tout. Et il ne veut pas me dire, il vit dans le mensonge et tout ça. Et le jour de la fête, donc, il a demandé de s'habiller, je crois qu'ils lui ont bandé les yeux, ils l'ont amené dans une salle des fêtes, et tous les amis qui étaient là, « Joyeux anniversaire !» Et pendant des semaines, la femme-là, elle s'est fait un film. Elle s'est imaginé des choses fausses parce qu'elle ignorait ce que son mari était en train de préparer. Ça vous est jamais arrivé, ce genre de choses? Vous n'avez pas l'imagination qui cavale parfois un petit peu vite avec les enfants, tout ça? Non? Ah, on voit qu'ils rigolent, là. Notre imagination se nourrit beaucoup d'images que nous voyons sur les écrans, dans les magazines, et le meilleur moyen pour nourrir sa peur, c'est de regarder le journal télévisé. Hein. Non seulement il nous transmet des peurs, il nous manipule, hein, c'est connu. Et voyez, vous voyez ces images, ça rentre dans votre tête, il y a eu un attentat, et on passe ces images, on fait parler des gens, tout ça, et on élève la peur. Et c'est juste après, il y a les élections, et ben, vous avez certains partis qui vont « oup !» monter en flèche. Regardez, avec les étrangers, on a la peur des étrangers, c'est un point que j'aborde dans mon livre. Avec les attentats qu'il y a eu en France, l'arrivée des migrants, il n'est pas trop difficile de voir comment la peur a monté. Mais réfléchissez, en fait, celui qu'on appelle l'étranger, il vient d'un pays différent. Il a une culture différente, une histoire différente, une couleur de peau différente, une langue différente, une religion différente, des habits différents, structure familiale différente, éducation des enfants différente, place de la femme différente, nourriture différente, musique différente, etc. Et qu'est-ce qui fait peur? Voilà, c'est la différence. Parce que on dit « Oh, il y a peur des étrangers, il n'y a qu'à les renvoyer chez eux ». Bon, on connaît tous ces slogans. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a peur des Belges? Vous avez peur des Anglais? Vous avez peur des Américains? Eh bien, j'ai une nouvelle grave à vous dire. Ce sont des étrangers. Mais vous n'avez pas peur d'eux parce qu'ils ne sont pas trop différents. Ils n'habitent pas trop loin. Ils ont la même couleur de peau, un petit peu la même manière de vivre. Et voilà, on peut avoir des... Donc, ils ne font pas peur. Par contre, s'ils viennent d'Afrique du Nord, tout ça, il y a eu des attentats, vous envoyez un dans le train avec une, je me trompe pas, une djellaba, hein, le, voilà, leur coiffure sur la tête, peu qu'il ait un sac, des lunettes de soleil, un bouc, eh ben, je suis certain, vous prenez le train de Nancy, vous allez à Paris, je suis certain que le wagon se vide. Ouais, parce que il y a l'imaginaire qui travaille, on ne le connaît pas, cet étranger, donc c'est un petit peu dangereux. Et donc c'est vraiment la différence qui fait peur. Il n'est pas comme moi, il est potentiellement dangereux, il vient forcément en France déjà pour profiter des allocations familiales, hein, certainement qu'en Syrie, sous les bombes, là-bas, il a dit « Tiens, il y a des allocs en France, il faut que j'aille en France, c'est le chemin du salut. » Écoutez les histoires des gens qui ont fait le chemin, vous allez voir. Hein. Vous voyez, donc il est venu pour prendre notre travail, violer nos filles, dérober notre argent et peut-être même poser des bombes. Alors quelqu'un a posté un post sur Facebook. C'est un petit dessin. Et c'est un adulte qui demande à un petit garçon, « Dis donc toi, dans ton école, est-ce qu'il y a des Turcs, des Arabes, des Iraniens, des Syriens, des Roms, des Africains ?» Le petit garçon, il répond, « Bah non, moi dans mon école, il n'y a que des enfants. » Je ne dis pas que l'arrivée des migrants, tout ça, est quelque chose de facile à gérer, hein, ça c'est autre chose. Mais une chose est sûre, sans même parler de la foi, c'est en apprenant à connaître l'autre avec sa différence que la peur peut commencer à diminuer. Maintenant, pour rencontrer celui que je considère comme étranger, bah, il faut aller vers lui. Et je pense pouvoir affirmer une chose importante. Plus je sais qui je suis, plus j'ai de facilité à aller vers l'autre. En d'autres termes, plus je suis au clair avec mon identité profonde, moins j'ai peur de l'autre. Et dans mes recherches sur le sujet de la peur de l'étranger, je suis arrivé au constat que les personnes qui ont peur de l'autre ont souvent un problème avec leur propre identité. Ils n'ont pas résolu ces questions d'où est-ce que je viens, qui suis-je et où est-ce que je vais. Et n'oublions pas que celui que je considère comme un étranger, ben, je suis aussi un étranger pour lui. Voilà, j'aimerais poser une deuxième question, c'est quelle est l'influence de la peur dans nos vies? Si vous faites une analyse de comment vous prenez vos décisions, vous verrez qu'il y a bien des fois, d'une manière consciente ou pas, où la peur vous aura influencé. Imaginez l'influence de la peur, par exemple, sur le vote au présidentiel et les élections régionales. La peur de l'étranger va être exploitée par des candidats qui vont vraiment jouer sur cette carte pour influencer les gens dans leur vote. Alors j'aimerais parler de deux domaines d'influence hein, qui sont liés aussi là. C'est l'influence sur nos comportements. Par expérience, je vous dirais que la peur peut rendre certaines personnes agressives, voire bagarreuses. Mais parfois aussi, ça les rend combatives et ça peut être parfois un plus. Alors que d'autres, la peur va les rendre beaucoup plus effacés, beaucoup plus doux, peut-être très timides. Ils ne vont pas oser s'affirmer, ils ne vont pas prendre la parole dans un groupe. Il y a certains qui vont se défendre un peu comme des montagnes. Et qu'un truc, oh, ils vont jaillir. Et puis d'autres, ils vont s'écraser comme des valets. Vous n'allez pas les entendre. Vous savez, on parle parfois de personnes fortes et de personnes faibles. Mais le psychiatre Paul Tournier, que certainement certains connaissent, il a écrit un livre dans les années 80 qui s'appelle « Les forts et les faibles ». Et il a dit « Il n'y a pas de forts et il n'y a pas de faibles. Il n'y a que des personnes qui ont peur et qui se défendent différemment. » Et c'est clair que les réactions à la peur peuvent être très différentes suivant les personnes. Dans la même situation, la même peur, des gens peuvent réagir de manière vraiment très différente. Je Si vous prenez la peur de la maladie, il y a des gens qui ont vraiment cette peur de tomber malade, hein, parce que peut-être qu'un proche a été malade, ou je ne sais pas, et puis que ça les a touchés. Alors, elles vont peut-être se laver les mains 10 fois par jour, elles vont essayer de manger bio, elles vont lire toutes les étiquettes sur ce qu'elles achètent, elles vont aller au médecin dès qu'elles ont 37,5 de fièvre, elles vont mettre un fort accent sur l'hygiène, tout ça, parce qu'il faut tout faire pour surtout pas tomber malade. Alors que, pour d'autres, même s'ils ont la peur d'être malades, eh ben, ils vont pas faire attention à ça, presque comme un défi. Vous voyez, c'est deux manières différentes d'agir, mais la peur de cette maladie, voilà, il y en a, il va réagir d'une manière, l'autre, il va réagir d'une manière différente. Ça dépend apparemment au départ du tempérament qu'on a, si on est plus pessimiste, optimiste. À l'annonce d'un cancer, il y a des réactions différentes. Certains sont dans le déni, c'est pas possible, ils veulent pas entendre parler, alors que d'autres, dès qu'ils entendent l'annonce, eh ben, la peur de mourir de décès va les faire que tout de suite, ils vont se battre. J'ai enterré mon père l'an passé, il avait un cancer, je l'ai suivi pendant à peu près 3 mois, et là, je peux vous dire qu'il a eu beaucoup de mal à prononcer le mot cancer, et au moment que je parle, je ne sais même pas s'il l'a prononcé. Et alors, pour parler de la mort, c'était même pas la peine. Et dans la famille, parmi ma mère, mes deux frères, mes belles-sœurs, je pense que j'étais le seul qui était conscient de la situation, hein, qui disait, voilà, maintenant, il faut faire des choses, les médecins ont dit qu'il n'y avait pas moyen de guérir et tout, mais il n'y avait pas question de parler de la mort et de choses comme ça. J'ai juste pu lui donner le manuscrit de mon livre, mais il ne fallait pas parler. Vous voyez, c'est le déni, et en disant, mais je connais des gens qui ont guéri tout ça, qui vivent encore aujourd'hui, alors que la peur de la mort, la peur de la maladie, parce que la maladie, si vous voulez, il y a la peur quand on a une maladie grave de ne pas savoir où est-ce que ça va mener, et dans la maladie, bien des gens diront, ils n'ont pas peur de la maladie, mais ils ont peur de la souffrance qui peut accompagner la maladie. Hein, et je pense que personne n'a envie de souffrir, qu'on ait la foi ou pas. Hein. Le deuxième domaine d'influence de nos peurs, il est bien sûr sur nos décisions. Vous avez certainement tous déjà vu, sortez du caddie, tout ça, hein, vous avez fait des soldes, tout ça, vous êtes heureux, tout, vous avez gagné plein d'argent, vous avez dépensé aussi, hein, les soldes c'est fait pour ça. Alors, qui n'a jamais vu, au moment où vous allez ranger le caddie, vous avez un gars qui est là et qui tend la main. Il est là, vous voyez, il n'est peut-être pas trop propre, il sent peut-être un petit peu pas trop bon, il a un chien à côté de lui, et il tend la main. Alors maintenant, c'est embêtant parce qu'on met des jetons, mais avant, on mettait une pièce. Donc, il y avait tout le temps des personnes qui étaient là pour faire la manche, comme on dit. Ou vous en croisez peut-être dans la rue, si vous avez pris le métro, il y en a un peu dans tous les coins. Et assez souvent, on peut se sentir mal à l'aise. Et vous savez pourquoi qu'on se sent mal à l'aise? Parce que la pauvreté nous fait peur. Et que lui, le mendiant, il représente ce que je pourrais devenir un jour. Vous voyez? C'est pas vraiment la personne en elle-même qui fait peur. C'est ce qu'il est en train de me renvoyer. Lui, la pauvreté est une réalité, vivre dans la rue c'est une réalité, tendre la main pour manger c'est une réalité, et un jour je pourrai me retrouver dans cet état. Et il représente vraiment ce que nous ne voulons pas connaître, la misère. Alors quand il vient demander une pièce, soit vous lui donnez, soit vous l'envoyez paître, hein, vous faites celui qui ne voit pas, comme ça. Mais la décision que vous allez prendre à ce moment-là, assez souvent, elle est dictée par ce renvoi qui fait que vous avez peur, même si elle est inconsciente. Une question comme ça, en passant. Qui d'entre nous dirait au mendiant, « Attends, bouge pas mon grand, je vais aller acheter 2 fast-foods, je vais aller acheter 2 bières, hein, 2 Grimbergen quand même, faut pas les connaître. » Et on va trouver un petit coin pour manger, et puis tu vas me raconter ton histoire, et je verrai si éventuellement je peux t'aider. Qui est-ce qui ferait ça? Alors j'ai raconté une histoire devant ma fille, elle se rappellera peut-être. Un jour, on a eu des routards qui sont venus à la maison. Hein? Un homme, une femme, je pense, pas loin de la soixantaine. Ils sont passés à la maison, ils ont dû voir le panneau, église évangélique, donc ils sont venus et ils ont demandé si on pouvait les loger. Alors, la première chose qu'on a fait, j'ai préparé à manger, tout ça, et je disais à ma femme, on va peut-être les faire monter pour manger. Et mon fils, lui, a dit, « Ah, papa, non, ne les fais pas monter, tout ça !» Parce qu'il les avait vus, et c'est vrai, là, il faut dire que vraiment, ils ne sentaient pas bon. Hein. Ils étaient habillés, voilà, une drôle de manière. Et j'ai vu que mon gamin, ça lui faisait peur de voir cette pauvreté, la réalité de cette pauvreté. Et je n'ai pas pu faire monter les gens à la cuisine. Après, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas monter, donc on les a fait manger dans une autre pièce, tout ça, ils ont dormi et tout. Mais vous voyez, d'être confronté comme ça, directement à la réalité, de dire on va voir ces personnes-là à table, pour lui, ce n'était pas pensable. Donc, pour le coup des casse-croûtes, personne n'aurait été acheter deux casse-croûtes et deux bières. Auriez-vous peur de la pauvreté? Non? Il y en a peut-être qui auraient, ils auraient invités pour leur pain de Noël, non? En général, c'est les évangéliques, hein, c'est clair qu'on a nettement moins peur de ces gens que la plupart des autres personnes. Mais je peux vous dire une chose, croyez-moi, on ne se rend pas toujours compte du nombre de décisions ou de réactions qu'on peut avoir qui sont dictées par la peur. Et je vous dis, il y a des peurs, on ne peut pas s'en libérer. Vous êtes venu à cette conférence ce soir, vous avez laissé la porte de votre maison ouverte? Non, vous l'avez tous fermé à clé, parce qu'on a peur des voleurs. Vous voyez, la peur est toujours quelque part présente. Simplement, il y a une différence, c'est quand on a la foi, on sait à qui on peut se confier, mais quand on ne l'a pas, il n'y a personne à qui se confier. Alors, j'aimerais aborder ma troisième question, c'est comment être libéré de nos peurs. Je suis bien conscient qu'on peut être libéré de certaines peurs en suivant une thérapie. Quand j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait des coachs spécialisés, tout ça, et si voilà, vous avez peur de la foule, peur des araignées, peur quand vous passez les examens, ou d'une autre peur un peu plus large, quoi, vous pouvez avoir des coachs qui vous apprennent à gérer ces peurs, hein, à vous maîtriser. Ah, justement, ils vont vous dire, attention, c'est ton imaginaire là qui part, il faut que tu sois vraiment objectif, que tu regardes la situation, et que tu regardes les faits réels, tout ça, et vous pouvez apprendre. Mais par rapport à la mort, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à gérer ce genre de peur. Il est évident, déjà, que pour connaître une libération, la première étape, c'est d'avouer ses peurs. Et pas de les cacher. Hein? Nous, on a un voisin, là, je ne sais pas s'il fait de la muscu, comme ça, il est quand même bien taillé, assez costaud. Il a le crâne rasé et il balade toujours avec son gros clébard. Et quand il marche dans la rue, j'ai peur de personne, moi. Le premier qui bouge, il lâche mon chien dessus. C'est une manière de cacher sa peur. On peut faire ça. Plutôt que d'avouer, bah oui, moi, j'ai peur, peut-être qu'il a peur des gens, je ne sais pas quoi. Tout ce qui est caché, pour en être libéré, doit d'abord être mis en lumière. Et ce n'est pas en cachant nos peurs qu'elles vont nous laisser tranquilles. Ou qu'elles vont s'en aller toutes seules. Jouer à l'autruche n'enlève pas la peur. La peur finit toujours par transparaître dans nos comportements, dans nos attitudes. Et vous me passerez l'expression, mais la peur, dans certains cas, peut aller jusqu'à vraiment vous pourrir la vie. Bien sûr, il y en a toujours qui disent « Moi, j'ai peur de rien, je suis un vrai, je suis un dur, tout ça. » Bon, il faut les laisser parler, mais bref. Allez, je vous raconte encore une histoire. Non, vous êtes déjà endormi? Oh, sinon, c'est rapide chez vous. Hein, d'habitude, il me faut 2 heures. Voilà, je crois que la plupart d'entre vous connaissez cette histoire. L'histoire d'un couple, Adam et Ève. L'histoire que nous trouvons dans le premier livre de la Bible, qu'on appelle la Genèse, ou le commencement, si vous voulez. Hein, et ce livre nous raconte comment Dieu a tout créé. Et ce qui est beau, c'est qu'à la fin de la création, Dieu regarde sa création et dit que cela était vraiment très bon. Après, je vais dire qu'il a pris un couple, Adam et Ève, il les a placés dans un endroit, il leur a dit, voilà, vous êtes dans ce jardin, vous pouvez manger de tous les arbres qu'il y a dans ce jardin. Et il a interdit un seul jardin que la Bible appelle le jardin de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève, donc, étaient là dans ce jardin, et il est venu un autre personnage qui est appelé ici le serpent, qui est une manière de désigner le diable. Et voilà, je vous lis cette histoire que vous pouvez retrouver dans la Bible. Il est dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Vous voyez cette histoire, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'elle nous rejoint dans notre quotidien aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas comme une légende que je vous raconte et tout. Non, cette histoire nous rejoint dans notre quotidien aujourd'hui. Vous allez voir. La première question que j'aimerais vous poser encore. Hein, vous aimez bien les questions ? Oui, merci. Pourquoi les êtres humains jouent-ils à cache-cache avec Dieu ? Tout comme Adam qui a été se cacher au milieu des arbres de la forêt avec sa femme. Et la réponse est simple. Tout comme Adam, ils ont peur de Dieu, cet étranger qu'ils ne connaissent pas. Vous me direz, je vous pose encore une question. Mais qui est prêt à rencontrer Dieu tout de suite et à passer en jugement devant lui? Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. Nos peurs sont nourries par notre ignorance et notre imaginaire. Dieu demande à Adam, « Où es-tu ?» Ben, je crois que cette question résonne encore aujourd'hui pour nous. Et peut-être que ce soir, Dieu te demande, « Où es-tu ?» Peut-être même qu'il te demande, « Où es-tu caché ? Derrière quel arbre te caches-tu ?» La question démontre au moins deux choses. Si Dieu demande « Où es-tu ?», ça démontre que l'homme est perdu. Mais la deuxième chose, ça veut dire aussi que Dieu le cherche. Et peut-être que Dieu te cherche. « Où es-tu ?» On pourrait presque traduire, j'ai envie de dire, par vraiment « Où te caches-tu ?». Remarquez que dans l'histoire d'Adam, la peur est liée aussi avec la culpabilité d'avoir désobéi. Hein, l'homme fuit après la désobéissance, mais elle est liée aussi à la honte d'avoir commis cette faute. On va imaginer un enfant de 8 ans, imaginons qu'il ait des parents un petit peu sévères, pif par pouf, vous voyez. Et puis il rentre de l'école, et dans son cahier, l'institutrice a marqué un mot, « J'ai surpris votre enfant en train de voler de l'argent dans mon porte-monnaie. » À mon avis, pour cet enfant, le chemin du retour ne va pas être facile. L'enfant sera comme la dent de notre histoire. Honte à cause de la culpabilité. Peur de la réaction des parents. Ne sachant peut-être pas vraiment comment les parents vont réagir, peut commencer à s'imaginer des scénarios. Est-ce que je vais avoir une punition un mois privé de vélo? Est-ce que je vais me prendre une fessée? Est-ce que je vais juste me prendre un gros cigare? Et certains, par peur, iront se cacher. Vous avez certainement entendu des histoires d'enfants qui ont fugué parce qu'ils avaient peur de la réaction des parents dans certaines situations. N'oubliez pas, je le répète encore une fois, l'ignorance, l'imaginaire, voilà ce qui va nourrir notre peur. Et croyez-moi, il y a beaucoup de manières de se cacher de Dieu. Certaines personnes vont se cacher dans l'athéisme, qui est assez répandu dans notre pays, hein, parce que un collègue m'a dit qu'on était devenu le premier pays athée au monde. Hein. Je n'ai pas vérifié l'info, mais quand il a dit ça... Bon. Dire que Dieu n'existe pas, c'est une manière de cacher sa peur de Dieu, du jugement dernier, et de dire, de toute façon, moi, tout ça, j'y crois pas. D'autres personnes qui sont convaincues de l'existence de Dieu, parce qu'en regardant la création, ils disent, ben voilà, il a bien fallu qu'il y ait un créateur au départ, il a bien fallu que quelqu'un donne la vie, tout ça. Donc les personnes sont convaincues de l'existence de Dieu, mais ils sont aussi convaincus d'avoir fait du mal dans leur vie, alors ils vont cacher cette peur de Dieu en pratiquant une religion, quelle qu'elle soit. Hein? Quelle que soit la religion qu'on pratique, c'est une manière de dire, bah, le jour où je vais passer devant Dieu, il faut que je fasse des choses pour essayer de racheter les choses mauvaises qui sont en moi. Mais la religion ne libère pas des peurs, ni de la culpabilité, ni de la honte. Avec la religion, on ne peut jamais savoir si on a fait assez de bonnes œuvres, si on a accompli tous les rites qu'il fallait, si on a fait tous les sacrifices pour être réconcilié avec ce Dieu pour être libéré de nos peurs et pour sentir qu'on a reçu le pardon du mal que nous avons pu faire. Et je suis désolé de dire que la religion ne libère pas des peurs, même si la religion, dans certains cas, peut être séduisante, parce qu'elle va aussi, quelque part, la pratique de la religion va nourrir mon orgueil, mais moi je suis capable de faire des choses bien pour m'élever vers Dieu. Maintenant, la deuxième question, c'est Dieu nous appelle à quoi ? Adam, où es-tu ? Je suis caché parce que... Est-ce que Dieu voulait faire tomber un jugement sur Adam ? Non, je crois qu'il voulait que Adam revienne pour lui dire, voilà ce que j'ai fait, tu m'as donné une interdiction et voilà, je n'ai pas pu résister. Mais à cette question, Dieu nous appelle à quoi ? La réponse est simple. Il nous appelle à la réconciliation. Car il est vraiment le seul qui peut nous libérer de notre culpabilité, de notre honte et de nos peurs existentielles. Et même des autres peurs qui nous empêchent de vivre vraiment libres et d'être vraiment nous-mêmes. Et il nous dit, n'aie pas peur. Sors de ta cachette. Je suis ton créateur, mais aussi ton père. Combien de gens, si on allait dans la rue faire un sondage et qu'on leur dise pour vous, qui est Dieu ? Combien de gens répondraient, il est mon père ? Vous savez qu'en tant que pasteur, j'ai fait pas mal d'entretiens pastoraux, on appelle ça parfois la relation d'aide. Et j'ai posé la question aux gens, qui est Dieu pour toi ? Eh bien, écoutez, jamais quelqu'un m'a dit « c'est mon père ». Jamais. Si je vous disais les réponses que j'ai entendues de la part de gens qui venaient à l'église, vous seriez vraiment étonnés. Je crois que Dieu, c'est clair, il est le seul qui peut nous redonner notre identité d'enfant de Dieu. Ça, c'est l'identité que tout le monde recherche, sans le savoir. Qui suis-je ? Et tant qu'on n'a pas découvert « je suis un enfant de Dieu », eh bien finalement, on va aller la chercher dans bien des domaines qui risquent justement de nous éloigner de Dieu. Et Dieu nous appelle à vivre en homme libre. Il nous appelle à la réconciliation parce qu'il ne veut pas qu'on passe notre vie à nous cacher par peur de lui et par peur des autres. Il ne veut pas qu'on reste prisonnier de nos peurs. Mais vous êtes déjà posé la question, d'où nous viennent les sentiments parfois de peur, de honte, de culpabilité? Pourquoi qu'on a ces choses-là en nous? Si Dieu n'existe pas, pourquoi qu'on se sent mal à l'aise quand on a fait du mal? Si le jugement dernier n'existe pas, pourquoi quand on a fait une faute grave, ça nous travaille, ça peut nous amener même à faire des dépressions et des choses comme ça, ça peut même créer des maladies en nous? Eh bien, parce que le mal est vraiment dans notre cœur. Ce mal que la Bible appelle le péché, voilà ce qui nous sépare du Dieu qui est un Dieu saint. Vous savez, des fois, quand on parle du péché, ça fait un peu rire les gens. Mais quand vous mentez, qui est-ce qui se sent à l'aise? Je vous donne un exemple qui va vous faire rire, hein. Imaginez un monsieur qui travaille dans un bureau, il a quelques problèmes un peu dans son couple, tout ça, ça va pas trop bien, le couple bat de l'aide et tout, et puis, hop, là, il y a la secrétaire qui est là, qui lui fait des yeux doux et tout, et le gars, un soir, il craque et il couche avec la secrétaire. À votre avis, quand il va rentrer à la maison, oh, il va dire, chérie, c'est vraiment formidable, j'ai couché avec la secrétaire, vraiment, c'était le pire, hein. J'ai beaucoup aimé, je recommence demain. Il ferait ça? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir lu la Bible pour sentir qu'il y a quelque chose qui va pas là? Est-ce que vous pensez que n'importe qui vit dans le monde, il serait fier de l'annoncer à sa femme et à ses enfants? Même quelqu'un qui n'a pas lu la Bible, mais sa conscience va le reprendre, il va se sentir mal à l'aise, et non seulement il va commettre cette faute, mais après il va être obligé de mentir, de trahir, et ça va être tout un engrenage. Il n'y a pas besoin de connaître les 10 commandements pour savoir, là, je viens de faire une faute grave. Moi, quand j'étais plus jeune, ma mère ne donnait pas d'argent de poche, donc c'était le système D. Donc, un des systèmes que j'avais trouvé avec les copains, on avait calculé que lorsqu'on rentrait dans le bureau de tabac, le gars, il mettait au moins 5 secondes avant d'arriver au comptoir. Et en 5 secondes, on avait le temps de lui faucher un briquet. Hein, il y avait des présentoirs, on avait trouvé le truc, tac, tac, hop, dans la poche. Bonjour, on a acheté un petit truc. Je revendais le briquet au collège, et j'allais acheter des clopes chez le gars, évidemment, hein. Rendait à César ce qui est à César. Hein. Mais je savais bien qu'on faisait du mal. Hein, et quand le gars à gauche a un copain en train de piquer, le copain, on ne le connaissait plus, on s'est barré, évidemment. Vous voyez, il n'y a pas besoin qu'on nous dise voler, c'est mal. On le sait que c'est mal. Hein. Personne ne peut dire moi, je vis une vie avec une conscience totalement en paix et que je fasse du mal ou du bien, la conscience est toujours au même niveau. Non, ça, c'est pas vrai. Si vous avez une personne âgée au bord de la route, hein, qui a avec ses commissions une canne et qui a du mal à traverser, vous l'aidez à traverser la route, vous l'amenez de l'autre côté, vous tous, vous aurez un sentiment, vous êtes content, vous avez fait une bonne action. Hein, mais si vous attendez qu'un 38 tonnes y passe, puis pas vous la poussez sous le 38 tonnes, ben vous savez que vous avez mal fait. Hein. Tap, tap, la mémé. Personne ne ferait. Il n'y a pas besoin de connaître les 10 commandements pour savoir que vous faites quelque chose de mal. C'est écrit dans notre cœur. On sait quand on fait du bien parce qu'on est approuvé par notre conscience. On sait quand on fait du mal parce que cette même conscience nous accuse. Et croyez-moi, le mal est dans le cœur de tout le monde. Il n'y a personne qui vive sur cette terre et qui ne commette jamais de péché. Et les péchés-là, je vous promets que ça peut vraiment entraîner et nourrir la peur. Nous sommes dans un monde où on voit bien que la paix, la sécurité sont quasiment absentes. La paix s'en va de plus en plus tous les jours. Il suffit de regarder les infos et voir tout ce qui se passe dans n'importe quel pays. Il y a des choses vraiment très difficiles. Ça crée vraiment des peurs et des choses comme ça. Donc on a la peur, une peur qui est nourrie et qui va en augmentant. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir où les gens, parfois, vont trouver du secours. Eh bien, des gens qui ont des peurs comme ça, qui développent des maladies, ça va être dans tout ce qui est des cachets, des médicaments. Et la France, on est le plus grand consommateur de médicaments. Vous voyez, les gens ils vivent avec des peurs, ça fait des stress, ils ont peur d'aller au boulot parce que le chef est dur et tout ça, et ça entraîne des gens parfois dans la déprime, la dépression, on en a vu quand même se suicider et tout. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Allez, mangez, vous faites des médocs et vous verrez, ça ira mieux. Alors là, la peur est nourrie des laboratoires pharmaceutiques, hein, qui sont extrêmement riches, vous le savez tous. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que je vous annonce, nous pouvons réellement être libérés de nos peurs. J'ai moi-même été libéré des peurs que je pouvais avoir. Et cette libération, elle passe vraiment par la réconciliation avec Dieu, qui est notre Père. Il n'y a aucun autre chemin. Et Dieu est prêt à vous pardonner vos péchés, mais vous devez venir à lui et ne pas le considérer comme un étranger que je ne connais pas et qui me fait peur. Plus vous apprendrez à connaître Dieu, et plus votre peur de Dieu va diminuer. Et quand vous découvrirez qui est Dieu, mais vous n'aurez pas peur d'aller vers lui. Et quand vous aurez des moments de peur, d'angoisse, de choses comme ça, vous saurez que vous pourrez aller vers lui et que vous pourrez aussi lui parler. Il vous tend la main et il vous dit, n'ayez pas peur. Vous savez que dans la Bible, il est écrit 366 fois, n'ayez pas peur. Hein, vous soyez sans crainte. 366 fois. Une fois pour chaque jour de l'année, même les années biceps-tiles. Et pour qu'on puisse être vraiment réconciliés avec lui, pardonnés de nos péchés, libérés de nos peurs, lui-même a fait tout ce qu'il fallait. Il n'est pas dit, vous allez faire une religion, vous allez pratiquer ça, vous allez offrir des sacrifices. Non, il est venu dans la personne de Jésus. Et il a tout accompli. Et si vous m'accordez encore 2 minutes, j'aimerais vraiment vous parler de ce beau message de l'Évangile. Un message qui a transformé ma vie, mais qui a transformé la vie de centaines et centaines de millions de personnes. Un message qui se résume par cette parole qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est d'accord que toute faute mérite un châtiment, plus ou moins grand, suivant la faute. Et la Bible nous dit que celle de nos péchés, c'est le châtiment, c'est la mort. Ce que la Bible appelle la séparation éternelle d'avec Dieu dans un lieu de perdition. Mais Dieu qui est amour, mais qui en même temps juste, ne veut pas notre perte. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus. Et je vous rappelle que tous les ans, nous fêtons Noël pour nous rappeler que Jésus est venu. Et Jésus est venu offrir sa vie à la place de la nôtre. La Bible nous dit que le châtiment que nous aurions dû recevoir, qui aurait dû tomber sur nous, il est tombé sur Jésus. La Bible nous dit que sa victoire sur la mort, sur les puissances du mal, sur les péchés, s'est manifestée quand il est ressuscité des morts. Jésus a vaincu la mort. Voilà pourquoi, quand on place sa confiance en lui, on peut être vraiment libéré de cette peur. Et je vous rappelle que la résurrection de Jésus, on le fait tous les ans à Pâques. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à la réconciliation. Et il nous dit, n'aie pas peur, viens à moi. Je peux te pardonner tes péchés, je peux te libérer de tes peurs, est accordée la vie éternelle. Alors quand j'ai fait ces recherches sur les peurs, tout ça, vous pouvez imaginer que je me suis lu pas mal de bouquins, d'articles, j'ai fait pas mal de recherches, c'était très intéressant. Et à la fin, la conclusion va peut-être vous surprendre, mais je me suis dit, il y a deux peurs finalement qui sont salutaires. La première, ça peut être la peur du jugement dernier qui peut nous pousser dans les bras de ce Dieu d'amour. Et la deuxième, c'est la crainte de Dieu qui nous pousse au respect de sa personne. Et la Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et si tu commences à marcher vers Dieu, je peux t'assurer, parce que je l'ai vécu, que tu seras libéré de tes peurs existentielles. Vous aurez peut-être, comme moi, toujours peur des chiens, mais vous n'aurez plus peur de la maladie, vous n'aurez plus peur de la mort, ni de la pauvreté, ni de l'étranger. Alors, après avoir entendu cet exposé, j'espère que vous prendrez une sage décision. Amen. Voilà, je suis disponible pour répondre à quelques questions. J'ai pour habitude de dire, je n'ai pas la prétention de répondre à toutes vos questions, hein, et essayez de poser des questions faciles que je puisse répondre. C'est bon. Gilles, tu as une question ? Okay. Question ? S'il n'y a pas de question, ça ne me dérange pas, hein ? Mais ça serait bête de repartir avec une question. Ok, bah, s'il n'y a pas de questions, je suis encore disponible après. Et donc, je redonne la parole à Jean-Haut.